Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrot.
Fin de match complètement folle ici au King Power. Oh, et Jamie Vardy entre dans la danse.
And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry.
PL Zone.
Aguero.
Salim Bongali, Florent Moussi.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la Première Ligue, le plus beau des championnats au monde. Le week-end, vous suivez à la télé sur RMC Sport les matchs. Le lundi, on en parle en profondeur avec une thématique particulière, vous la constaterez dans un instant avec Flora Moussi. Bonjour Flora.
Salut Salim, salut à tous.
Bonjour Loïc Moreau.
Hello.
Un invité exceptionnel également, Sylvain Distan, ancien joueur de Newcastle, Manchester City, Portsmouth, Everton, Bournemouth, oui, il connaît bien la Première Ligue. Bonjour Sylvain. Le joueur français qui a le plus joué en Première Ligue parmi vos clubs anglais, Everton, sur lequel on va se poser dans ce podcast. Everton, un club historique qui semble à la dérive, qui semble en échec depuis tant d'années. Un club au choix étonnant, surprenant même parfois. Pourtant un club qui compte tant dans l'histoire du foot anglais. Pourquoi ce club va aussi mal aujourd'hui? Focus sur l'autre club de Liverpool dans l'épisode 12 de PL Zone Podcast. C'est parti.
Ward-Prowse back and away. Oh, what a stunning goal from Seamus Coleman. It's Mikel Arteta. It's fantastic. Wayne Rooney. Oh, he went for it. Oh, his first goal in the Premiership. My word, what a strike by Leighton Baines. A sensational free kick.
Beattie to McFadden.
McFadden! Oh, that's another fantastic goal. And Everton have wrapped it up now.
Hunting an equaliser here, and James McFadden can't hit them. Aim towards Tim Cahill. Brilliant! Absolutely brilliant from Tim Cahill.
Saha!
Magnificent strike!
Eh oui, de bien jolis noms, mais on garde le meilleur pour la suite quand un certain défenseur français a marqué un jour de Liverpool-Everton.
Kyriakos picking up Fellaini, the danger man, it's in! 40 seconds into the second half, Sylvain Distan, in his 400th appearance in British football, gets Everton back on level terms.
Et oui, Sylvain, vous aviez marqué face à Liverpool pour votre 400e apparition dans le football britannique. Quelle chose, je serais même de marquer face aux Reds à Anfield, non?
Oui, je me souviens très bien de ce but. Par contre, je ne savais pas que c'était pour mon 400e match. Et donc, merci pour l'information.
2-2 ce jour-là. Et je le disais, en plus, c'était une période en plus où Liverpool était un peu vacillant aussi. Mais réussir ce jour-là à ne pas perdre Anfield, forcément, c'est marquant pour vous parce que vous n'avez pas très souvent marqué en Première Ligue. Hein.
Non, pas trop. J'étais plus focalisé sur mes tâches défensives. Ça m'a valu pas mal de chambrage de la part de mon père, mais parce que j'estimais que je marquais pas assez, mais non, c'était un petit regret, on va dire. Je sais que par rapport à mon gabarit et à mon jeu de tête défensif, j'aurais dû offensivement être un peu plus efficace.
Bon, je suis taquin avec Sylvain, Loïc, mais on va quand même se poser sur les chiffres de Sylvain Distin, des chiffres exceptionnel.
Ah oui, ils sont incroyables ces chiffres, puisqu'effectivement, même si Sylvain n'était pas réputé pour être un buteur, quelle longévité en Première Ligue. 469 matchs joués en PL, ce qui fait de lui le 19e meilleur total en termes de matchs joués tout confondu. Donc c'est énorme. Si on réduit aux joueurs de champ non britanniques, c'est le numéro 1, tout simplement, avec ses 469 matchs. Et si on le compare un petit peu aux autres joueurs français, tu l'as dit en introduction, Salim, c'est le joueur français qui a le plus joué dans l'histoire de la PL. Et ben, le deuxième, c'est Nico Anelka, notre consultant, et il est loin, très loin. Il a plus de 100 matchs de moins que Sylvain Distin. Donc il y a une vraie différence, et Sylvain Distin a vraiment marqué là aussi l'histoire de la PL grâce à sa longévité.
Juste Sylvain, quand on vous accueille comme ça, ces chiffres, ça vous épate toujours d'entendre ça?
Ouais, toujours, c'est des chiffres que j'ai pas trop fait gaffe pendant que je jouais. Moi, voilà, j'aimais jouer les matchs, c'était mon but de jouer autant de matchs que possible, jouer tous les matchs, blessé, pas blessé, voilà, c'était mon ambition de pouvoir continuer à jouer aussi autant que possible et prendre beaucoup de plaisir. Mais une fois que j'ai arrêté, ouais, c'est là que tu regardes un petit peu tes statistiques. J'étais pas trop stats moi quand je jouais. Et c'est des chiffres qui font plaisir. Je pense que chaque joueur a ses qualités. Et moi, c'était ma longévité. Et voilà. Donc c'est bien. Ça montre aux jeunes que c'est pas, il y a pas que les Ronaldo et les Messi et Ere Anelka qui peut faire des super carrières. J'étais peut-être pas le meilleur joueur, mais je me suis battu sur d'autres champs. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis c'est des petits records qui sont toujours d'actualité. Donc après, ça doit faire 6 ans maintenant que j'ai arrêté. Donc tu te dis que c'est sympa, ouais.
Alors, il n'est pas prêt d'être battu celui-là. Ouais. Les 469 matchs, il va falloir aller les chercher pour un Français.
Absolument. Et parmi tous ces matchs que vous avez joués, il y a les nombreux avec ce maillot Toffi. Loïc, on va rappeler une chose pour notamment les plus jeunes peut-être qui écoutent ce podcast. Everton, c'est un très grand nom du football anglais.
Oui, c'est ça, du football anglais, du championnat anglais en général, parce que c'est vrai qu'on a tendance, et à tort parfois, à réduire en fait le championnat anglais à la Première Ligue, à l'ère Première Ligue, donc depuis 92-93. Mais même déjà sur cette ère Première Ligue, rappelons qu'Everton fait partie des 6 clubs n'ayant jamais été relégués donc, de PL. Ils ne sont pas nombreux. Outre Everton, il y a donc Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United et Tottenham. Et c'est vrai que si on prend un côté plus global, Everton, c'est quand même le 4e club le plus titré dans l'histoire du championnat anglais, derrière Manchester United, Liverpool et Arsenal. Donc voilà, on est vraiment dans les grands noms, et des grands noms, il y en a eu aussi à Everton. On évoquait Sylvain, mais il y a aussi un grand buteur des années 30 qui s'appelle Dixie Dean, qui, on le rappelle, a marqué 60 buts quand même en l'espace d'une saison, 1927-1928. Ouais, 60 buts, même Messi, Ronaldo ont pas réussi à le faire. Au final, ça fait de lui le 3e meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais, donc de première division, derrière Jimmy Greaves, à qui on a rendu hommage après son décès l'année dernière, et Steve Bloomer. Et c'est vrai que dans les années 80, Everton, c'était vraiment une équipe qui comptait. Ils ont gagné le titre à 2 reprises, en 85 et en 87. Et en 85, ils ont même fait le doublé en remportant la Coupe des Coupes. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des joueurs emblématiques, le gardien notamment, Neville Southall, qui est un gallois, un physique de garagiste, hein, mais qui a plus de 700 matchs, 751 en 16 ans de carrière.
Aujourd'hui, je ne sais pas si ça marcherait, un tel physique.
Je ne sais pas non plus. Mais entre 80 et 97, Peter Reid, donc, qui a été aussi entraîneur, qui est plus connu par les plus jeunes pour son passif en tant qu'entraîneur, mais qui a été un milieu de terrain mythique d'Everton dans les années 80, et Graeme Sharp, qui était un milieu de terrain écossais et qui a été nommé récemment directeur non exécutif du football en décembre, avec là aussi, justement, on va en parler après, mais la volonté peut-être des propriétaires de rattacher en fait le Everton actuel de 2022 avec justement certaines légendes, dont Graeme Sharp qui en fait partie.
Oui, on va l'évoquer effectivement dans un instant. Flora, en tout cas, en introduction de ce podcast, on a entendu tous ces noms, tous ces buts, et on se dit qu'Everton, il y a eu des joueurs de dingue qui sont passés par ce club.
Déjà, on va quand même saluer Everton parce que c'est eux qui ont sorti Wayne Rooney en première ligue. Ça, il faut quand même.
C'est vrai, c'est vrai, oui.
Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que évidemment, Rooney en fait partie pour toute son histoire avec les Toffees. Mais moi, on l'a entendu, il y avait un joueur que j'adorais. Moi, c'était Tim Cahill parce que vraiment, il me faisait rêver sur un terrain. Je trouvais que c'était un joueur. Puis c'était particulier de voir un joueur comme ça, australien, débarquer en PL. Enfin, voilà, des joueurs étrangers. Il y a Steven Pienaar aussi, je me rappelle, le Sud-Africain. Enfin, que t'es des joueurs qui venaient un peu de nulle part comme ça, qui arrivaient en première ligue et qui cartonnaient à Everton. Et c'est vrai que, hormis voilà, Mikel Arteta, Leighton Baines, tous ces joueurs-là, qui n'étaient pas les joueurs forcément les plus connus de première ligue, mais quand on était amateur de PL de ces années-là, on retenait en fait tous ces noms parce que Everton, c'était chiant à jouer à cette époque.
C'est vrai, à Goodison Park. Tiens, votre histoire désormais, Sylvain, avec Everton. On le rappelle, avant Everton, vous jouiez à Newcastle, à Manchester City, à Portsmouth, avant donc d'arriver à Goodison Park. Comment votre arrivée s'est faite en 2009?
Très très bien. Et puis pour dire la vérité, j'ai pas eu le temps non plus parce que ça s'est fait. Là, le championnat avait déjà démarré. Et je crois que j'ai signé le mercredi. Je suis retourné sur Portsmouth pour récupérer mes affaires. Je suis arrivé le vendredi et les joueurs, ils avaient joué un match d'Europa League, donc ils étaient là enfin en train de faire des crassages. Donc j'ai fait une séance toute seule et j'ai joué le samedi directement ou le dimanche, je crois que c'était. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'acclimater. J'ai joué deux jours après avoir signé. Mais il y avait deux trois joueurs que je connaissais. Il y avait Louis Saha qui était là, qui m'a vachement aidé. Et puis pour être honnête, le vestiaire à Everton, c'était quelque chose de spécial. C'était des joueurs qui étaient là depuis au moins, il y avait au moins 3-4 joueurs qui étaient là depuis au moins 10 ans. Tout le monde se connaît très bien. C'était super facile. Donc l'intégration s'est faite rapidement parce que niveau sportif, il n'y avait pas le choix. Et aussi facilement parce que l'ambiance du vestiaire était top et ça me correspondait très bien aussi. Donc ça s'est fait très très bien et je connaissais un petit peu aussi le coin parce qu'après avoir joué pour Manchester City pendant 5 ans, je connaissais vraiment le coin, donc j'avais des amis aussi sur place. Donc voilà, ça s'est fait rapidement et simplement.
C'est vrai que j'allais vous demander, c'était quoi le Everton de l'époque? Quand je vous entends, en tout cas, c'est presque la notion de club famille, ou en tout cas très sympa, hein, dans lequel vous êtes arrivé à l'époque.
C'est ça, c'est exactement ça. C'était un club famille, que ce soit les physios, il n'y avait pas que les joueurs qui étaient là depuis plus de 10 années, il y avait des physios, il y avait les femmes à la cantine, les chefs et les cuistots qui étaient là depuis, pareil, une quinzaine d'années, le kitman qui était là depuis pareil, un paquet de temps. Donc c'était vraiment cet esprit famille, et puis surtout l'envie de bosser, quoi. L'envie de bosser, ça travaillait dur, on avait un entraîneur qui ne pardonnait pas. Il fallait que tout le monde bosse correctement et du coup ça a créé une atmosphère un petit peu spéciale. C'était facile de discuter, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. On se remettait toujours en question et oui, j'ai entendu dans vos commentaires que c'était un club qui était chiant à jouer et c'est vrai, parce que je me souviens, après avoir quitté Everton, discuter avec des joueurs même comme Titi ou des joueurs comme ça qui sont quand même des joueurs emblématiques de Première Ligue et qui ont joué contre des clubs beaucoup plus impressionnants, on va dire, qu'Everton. Et ce qui revenait à chaque fois, c'était personne n'aimait jouer à Goodison. Mais personne. Que ce soit les Chelsea, peu importe les joueurs, personne n'aimait jouer à Goodison parce qu'ils savaient qu'on allait physiquement, on allait être là. Il y avait une ambiance dans le stade exceptionnelle aussi. Donc ouais, c'était une petite fierté à l'époque.
Oui, parce qu'ils aimaient bien en plus embêter les gros du championnat, Everton, à ce moment-là. Mais sinon, je vais juste revenir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, un peu plus tôt, là, sur ce côté ambiance familiale à Everton. Tu as fait plusieurs clubs en Première Ligue. C'est quelque chose que tu n'as pas retrouvé ailleurs, justement, cette ambiance-là, cette exigence qu'il y avait là-bas?
Non, je pense que Everton et Guignon sont été les deux clubs où j'ai ressenti ça, cet esprit de famille. Et c'était bizarrement peut-être les deux clubs où on a été les plus réguliers, on a eu aussi des belles saisons sans avoir le meilleur effectif. Parce que je me rappelle de tous les joueurs qu'on avait à Everton, c'était des bons joueurs, hein, mais on était là à essayer de titiller le top 4 à l'époque. Ouais. Et quand on regarde les joueurs que nous on avait et que les top 4 avaient, on n'aurait pas dû être là. Mais seulement on compensait par notre qualité d'esprit d'équipe et par notre envie de se battre les uns pour les autres, quoi.
Sur votre propos précédent, vous avez évoqué votre coach David Moyes, hein, en l'occurrence à Everton, un coach qui ne pardonnait pas, entre guillemets, c'est votre propos, hein. Quel était le David Moyes de l'époque, justement? Aujourd'hui, on le connaît, on le voit un peu plus à West Ham, mais il était comment à l'époque?
Je me souviens, ma première, donc après le match, première semaine d'entraînement, où j'ai fait au moins déjà 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais 7-8 ans en Première Ligue, donc j'avais l'habitude de l'intensité, des entraînements. Et je me souviens du premier vrai entraînement que j'ai fait avec le club, où tous les clubs où j'ai joué auparavant, il y avait des groupes. Quand on faisait des séances physiques, il y a des groupes. Donc, que ce soit par âge ou par niveau de test que tu fais en début de saison. Et quand tu arrives à Everton, c'est tout le monde court la même distance, le même truc. Et j'ai morflé. Je crois que j'ai failli vomir à la première séance. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis tombé où, là? Et en fait, c'était vraiment, surtout quand ça va pas, quand ça n'allait pas, eh ben, on travaillait encore plus dur. Quand les choses se passaient bien, on continuait quand même à travailler dur. C'était, je me souviens de séances le vendredi tactique, le vendredi d'avant-match, où il pleut, il neige, il fait froid, temps dégueulasse, et tu restes une heure à travailler les coups de pied arrêtés. Tout était dans le détail et dans la répétition, et c'était intense. C'était super intense, mais je pense que ça me convenait à l'époque. C'était une mentalité qui me convenait, un coach qui me convenait. Et ça m'a permis un moment où j'aurais dû un petit peu descendre au niveau physique et mental, ou parce que j'avais 31 ans et tu te dis, bon, le pic est passé. et ben ça m'a permis de continuer et puis de jouer jusqu'à 38 ans, quoi. Donc je le remercie pour ça aussi.
T'arrivais à le comprendre quand même à chaque fois, David Moyes, parce que l'accent...
J'ai débuté ma carrière à Newcastle, donc t'arrives à parler, à comprendre les ordi, je peux te dire que tu peux aller où tu veux en Angleterre, tu comprendras partout. Donc non, pas de problème.
Mais c'est très fort ce que vous venez de dire, c'est que David Moyes, avec lui, vous avez pu progresser. C'est vrai qu'il n'a pas toujours cette image-là, ou de loin peut-être de France, on a peut-être cette image-là, vous avez pu progresser avec lui.
Non, il n'a pas cette image-là parce que, je pense, parce que les gens gardent en tête son passage à Manchester United, mais quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui à West Ham, c'est vraiment typique de ce qu'il a pu faire à Everton. Personne ne pensait que West Ham serait où ils sont aujourd'hui. C'est un bon groupe de joueurs, mais pas non plus extraordinaire par rapport au top 4 ou au top 5. Mais ils sont là, ils se battent et ça me rappelle exactement ce qu'ils faisaient. Et c'est un très, très, très bon entraîneur. Il y a plein de choses que les gens ne font pas attention, mais on était une des meilleures défenses pendant 4 saisons d'affilée. On était dans les deux, je crois qu'on était deuxième ou troisième meilleure défense 4 saisons d'affilée sans avoir les joueurs que les autres clubs pouvaient avoir. Donc il nous a toujours manqué quelque chose. C'était un club qui ne dépensait pas trop non plus financièrement. Donc c'est pour ça qu'il nous manquait toujours cet attaquant ou un milieu ou un défenseur ou quelqu'un qui pouvait vraiment faire la différence. Mais sur une saison, on arrivait à compenser par notre esprit d'équipe. Donc non, c'est un super entraîneur. Voilà, les gens Garzelli pensent un petit peu à United quand on pense à lui. Mais quand on voit ce qu'il a fait à d'autres clubs, ce qu'il a fait à Everton et ce qu'il fait aujourd'hui à West Ham, je pense que il mérite un peu plus de respect.
Avec ce podcast, on essaie de comprendre petit à petit pourquoi Everton marche beaucoup moins désormais. Vous avez évoqué certaines choses du passé, notamment David Moyes. Donc, mais David Moyes, au final, Flora, on a l'impression donc Everton, ça a plutôt bien fonctionné. West Ham, ça marche pas trop mal. Et donc, United, c'est le fameux exemple qu'on prend à chaque fois. David Moyes, c'était en fait un entraîneur d'équipe, entre guillemets, moyenne, au final.
Alors... Là, moi, je rejoins totalement Sylvain. C'est vrai que le pauvre, en tout cas à l'échelle internationale, parce que les suiveurs de Première Ligue savent pertinemment que c'est un bon entraîneur avec effectivement ce qu'il a fait Everton, parce que ce n'était pas ponctuel. Ça a été pendant des années venir embêter le top 4. Et ça, il y a beaucoup d'autres équipes qui n'ont jamais réussi à le faire. Mm-hmm. Et ce qu'il fait aujourd'hui à West Ham le confirme. Et finalement, pour lui, à l'international, c'est ce passage à Manchester United. Mais en fait, je trouve qu'on a été globalement très dur avec lui. En fait, avec ce passage-là, il récupère un club... Il arrive quand même après 26 ans de Sir Alex Ferguson à la tête de Manchester United. Je pense que n'importe qui, de toute façon, qui arrivait après ça, se serait planté parce que déjà le club était, enfin l'équipe était en fin de vie à ce moment-là. Il y avait beaucoup de joueurs vieillissants, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient plus à leur place, qui étaient là parce que Ferguson était là. Et à partir du moment où il est parti, beaucoup ont lâché. Donc il s'est retrouvé un petit peu dans la galère avec ce club David Moyes. Et finalement, on lui a tapé dessus parce que. Fallait pas s'attendre dès la première saison à ce qu'il soit champion en fait avec United, et finalement il n'y a pas eu forcément, moi je trouve, cette patience qu'aurait été nécessaire peut-être avec ça. Lui pour qu'il prenne le temps de reprendre le club en main, de remettre sa patte, parce que l'ombre de Ferguson allait rester longtemps aussi, et ça c'est pas facile. Il était écossais comme lui, donc il y avait des comparaisons qui ont été faites super simples, et comme il avait été adoubé en plus par Ferguson, qu'il l'avait officialisé devant tous les supporters à son dernier match à Old Trafford, prenez soin du nouveau coach, etc., la pression elle était énorme, quoi. Je veux dire, il y avait à peu près tout qui était réuni pour que ça marche pas, en fait, finalement. Et en aussi peu de temps, c'était impossible que ça prenne.
Ouais, Loïc, juste parce que depuis tout à l'heure, on parle de David Moyes, mais on va rappeler les chiffres le concernant à Everton. Ce sont des chiffres juste phénoménaux.
Ben, Sylvain parlait de la fidélité de beaucoup de joueurs quand il est arrivé à Everton. Mais cette fidélité, elle s'applique aussi à l'entraîneur, puisque David Moyes, en termes de matchs dirigés, est le quatrième entraîneur qui en a dirigé le plus, toutes compétitions confondues, dans l'histoire d'Everton. Donc c'est quelqu'un qui s'est inscrit là aussi dans la durée. Et puis, même si c'est pas lui qui a le meilleur pourcentage de victoires, si on prend en Première Ligue, il est devancé légèrement par Carlo Ancelotti. David Moyes, il est à 40% de victoires, Ancelotti à 43%. Mais là encore, l'échantillon sur lequel on regarde ce pourcentage de victoires, il est incomparable, puisque Ancelotti, c'est deux saisons. David Moyes, voilà, on en est à plus de 10. Mm-hmm. Donc il a vraiment marqué son empreinte, et surtout c'est avec lui que les Toffees ont obtenu le meilleur classement de leur histoire en Première Ligue, donc toujours depuis 92-93, en finissant quatrième de PL en 2004-2005. Ouais. Donc là aussi, il faut remettre dans le contexte, hein, Manchester, alors, même s'il n'y avait pas encore de Manchester City au niveau où on les connaît maintenant, ouais. Mais Liverpool, Arsenal, Chelsea, déjà, évidemment, Manchester United, enfin, un véritable exploit pour le coup.
Oui, je rappelle que cette année, Liverpool gagne juste la Ligue des Champions, hein, quand même, et finit derrière Everton. Flora, utilisait le terme de patience, Sylvain. On se souvient des premières saisons qui n'étaient pas forcément évidentes pour Moyes lorsqu'il remplace à l'époque Walter Smith. Il finit 16e. Une année même, il finit 17e. On se dit qu'il va être démis de ses fonctions. Everton le garde et l'année suivante, il termine 4e. Avec Everton, comme quoi les dirigeants ont été patients avec lui, lui ont laissé les clés du camion.
Ouais, je pense que c'est ce qui se perd aujourd'hui dans le football. Il y a très peu de patience. Et je pense que c'est aussi un des problèmes à Everton et beaucoup d'autres clubs. On parlait de United et de David Moyes qui n'a pas été jugé avec beaucoup de patience et très durement, je pense. Mais il y a personne après lui qui a réussi à redresser la barre à United non plus. Donc je pense que oui, la force d'Everton, c'était ça. C'était la patience, c'était de faire confiance, c'était de prendre le temps, recruter l'entraîneur qui correspond au club, recruter les joueurs qui correspondent au club, plutôt que de faire des coups et de se rendre compte que ça ne marche pas. Mais je pense que c'était aussi par obligation, parce que financièrement, le club n'était pas en opposition de changer d'entraîneur chaque année et de changer tout un effectif. Donc c'était un peu par choix, c'était par obligation, et aussi je pense par personnalité, ça correspondait à Everton à l'époque.
Et aujourd'hui, le Everton actuel, désormais Loïc, c'est celui qui est impatient et qui change de coach encore plus depuis que Moyes n'est plus là.
Ouais, c'est presque un coach par saison, parce qu'à l'exception de Roberto Martinez, au final, qui prend derrière Moyes et qui reste un petit peu plus longtemps. On le voit notamment sous le nouveau propriétariat, sous Farhad Moshiri, donc, qui est l'actuel propriétaire d'Everton. Bon, bah, ça n'a pas arrêté de changer. Au final, il commence avec Ronald Koeman, donc on est en 2016. Après, il enchaîne avec Sam Allardyce en mission sauvetage parce qu'ils sont déjà en galère. Donc forcément, voilà, la patte Koeman n'a pas fonctionné. Derrière, il tente un nouveau coup avec Marco Silva en se disant, voilà, Marco Silva, c'est un entraîneur qui a une philosophie de jeu bien particulière. Là non plus, ça ne marche pas. Derrière, arrive Carlo Ancelotti. Alors là, forcément, je me souviens quand Carlo Ancelotti signe, bon voilà, un nom, peut-être l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire qui arrive à Everton. Et on l'a vu dans les chiffres, c'est pas si mauvais que ça, hein, en pourcentage de victoire. Il a ramené aussi des joueurs qui étaient d'un tout autre calibre, du style Rames Rodriguez ou Alan aussi, qui était une référence en Serie A. Mais là aussi, ça n'a pas fonctionné comme il le souhaitait, puisque Ancelotti est reparti au Real. Et puis bah là, bon, cet été, Rafael Benitez, quoi.
Ouais.
Rafael Benitez, l'homme l'anti Everton, en fait, qui avait eu des propos très limites déjà sur le club, en qualifiant de petit club à l'époque où il était entraîneur de Liverpool. On avait parlé avec Flora, je crois que dans l'histoire, c'est seulement le deuxième entraîneur qui prend les rênes de l'autre club de Liverpool. Donc non, là, le choix est lunaire. Et on se dit que là, voilà, comme disait Salim, on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire Everton cherche un entraîneur. Visiblement, Duncan Ferguson ne va pas être confirmé, donc c'est pareil. Et les pistes, les noms se multiplient, on ne sait pas qui va prendre la suite.
Oui, vous l'avez dit, Duncan Ferguson intérimaire désormais, hein, c'est le communiqué officiel, il ne restera pas a priori jusqu'à la fin de la saison. Lui qui était si touché ce week-end après la défaite à domicile face à Aston Villa en championnat.
Dernière question, comment vous êtes-vous senti après le match?
C'est terrible, je me sens mal, je suis désolé pour les fans, vraiment désolé.
Tiens Sylvain, Duncan Ferguson, alors même si le communiqué initial du club c'est simple intérimaire, on a l'impression que lui, il a le club viscéralement inscrit en lui, il pourrait rester sur ce banc, non?
Oui, je pense qu'il lui manque un petit peu l'expérience, mais l'avantage qu'il a, c'est que les fans l'adorent. Il est considéré comme une légende au club, donc forcément il aura un peu plus de patience, les fans auront un peu plus de patience envers les résultats, et puis surtout il représente Everton, sa personnalité, sa façon d'être, la façon dont il a de parler aux joueurs, il représente Everton. Mais quand je parle d'Everton, je parle d'Everton de mon époque. Everton aujourd'hui est complètement différent, parce que on parlait de tous les entraîneurs, chaque entraîneur qui est arrivé après Moyes était complètement différent, chaque entraîneur a essayé de poser son empreinte, on ne leur a pas vraiment laissé le temps. Et puis on passe à un autre entraîneur, donc on change un petit peu l'effectif, on change encore un peu l'ADN du club, et ça a été ça depuis 6 ou 7 saisons. Beaucoup de joueurs influents, je parle des joueurs qui étaient là depuis des dizaines d'années, sont partis à la retraite aussi, ils n'ont pas forcément été remplacés, ou alors remplacés par des joueurs qui n'avaient pas forcément cet état d'esprit, parce que Everton, c'est vraiment une mentalité spéciale. Donc du coup, je pense que depuis 5 ou 6 ans, c'est un club qui se cherche, qui cherche une nouvelle identité, qui cherche un nouveau style de jeu aussi, parce que chaque entraîneur vient avec sa tactique et son style de jeu. Donc c'est un club un petit peu perdu. J'ai pas ça dans le mauvais sens, c'est simplement qu'il y a eu tellement d'échanges, tellement de changements, que ce soit même au niveau des présidents, que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau des joueurs, que c'est un club qui cherche un peu son identité pour le moment. Et c'est ce que je ressens, moi, quand je vois les matchs d'Everton. Je n'essaie pas de comparer avec mon époque à Everton. Enfin, je n'essaie plus de comparer avec mon époque à Everton parce que c'est vraiment différent. Mais je n'arrive pas à comprendre leur style de jeu, leur mentalité, leur façon d'être, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Et si on ne laisse pas le temps au temps, ils auront toujours ce même type de résultat.
Tiens, Loïc Moreau en parlait il y a quelques instants. Graham Sharp, qui fait partie du board d'Everton, un ancien de cette équipe d'office, donc Duncan Ferguson, ancien joueur. Leighton Baines aussi, qui est son adjoint. C'est peut-être sur ce genre de ressort qu'Everton peut justement, en essayant de se lier avec le passé, un passé plutôt glorieux, non ?
Ouais, non, je pense que pour le moment, en tout cas, c'est la meilleure solution. Les noms que j'entends, il n'y a pas grand nom, moi, qui me... J'ai entendu
Wayne
même
Rooney.
Parler de Roberto Martinez. Rooney, stop. Il fait un super boulot à Derby, mais est-ce qu'il a l'expérience? C'est son premier job de Première League. Et ce qui me dérange un peu avec ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on juge les entraîneurs sur leur passé de joueur.
Ouais.
Et il y a beaucoup de... Que ce soit Mikel Arteta, que ce soit Steven Gerrard, Lampard. C'est des joueurs qui sont mis... qui ont eu une chance énorme d'être à la charge de clubs de Première Ligue, mais plutôt sur leur passé de joueur. Donc après, il faut qu'ils se construisent aussi une expérience en tant qu'entraîneur, et tant mieux pour eux, mais voilà, est-ce que ça sera pas... C'est qui tout double ?
Si
tu prends un mec comme Rooney, super boulot à Derby, ce qu'il fait, c'est même exceptionnel, mais c'est la Première Ligue, c'est différent. Après, oui, il aura cette aura au niveau des joueurs et au niveau des supporters aussi, mais là, ils ont, avec Benzi et Duncan, ils ont les joueurs, les entraîneurs maintenant, mais qui ont cet état d'esprit en tant que joueur qui correspond à Everton et que je suis sûr qu'ils vont transmettre et qu'on va voir très rapidement. On l'a vu déjà quand Dunk a repris Everton il y a une ou deux saisons de ça. Il y a un changement qui est direct, qui est radical parce qu'il ne laissera pas passer les choses, parce que c'est un peu l'ancienne école, c'est à la dure, on se dit les choses comme elles sont et il va falloir que les joueurs s'adaptent. Donc je pense que oui, il va y avoir une réaction sur le court terme. Je pense qu'il va être très bonne pour Everton. Sur le long terme, je suis pas certain.
Ouais, puis Salim, tu parlais d'Everton et de son lien de Duncan Ferguson avec Everton. Il l'a carrément tatoué sur le bras. Il a le logo d'Everton tatoué sur le bras. Et c'est vrai qu'il attend que ça, lui. Il aurait pu partir avec Ancelotti au Real en qualité d'adjoint cet été. Il n'a pas voulu, il est resté. En fait, il attend que ça. C'est son rêve à lui d'être coach. Et comme disait Sylvain, c'est une légende. C'est le deuxième meilleur buteur du club en PL. Et puis voilà, je rappelle, attaquant avec le plus de cartons rouges dans l'histoire de la PL, ça te situe un bonhomme. Il faisait des Francis Ngannou sur Yap Stam et sur Sol Campbell. Enfin, le gars a peur de rien. Il est incroyable. Il est incroyable.
Ouais, mais Dunk, c'est aussi le seul qui est resté, qui a passé tous les entraîneurs. Il était un peu adjoint après Moyes, depuis Martinez. Il était sur le banc avec tous les entraîneurs et c'est le seul qui est resté parce qu'il est attaché au club. Il doit sûrement avoir un accord avec le club aussi. Il faut le garder parce qu'il sait ce que le club représente pour les fans et puis ça garde un petit peu cet ADN d'Everton. Donc non, il est là en tant que joueur, entraîneur ou entraîneur adjoint. Il était là depuis un moment. Donc je pense que oui, il faut lui laisser. Je pense que c'est une bonne chose qu'il reprenne le club maintenant. Et puis on le juge sur la moitié. Il reste une moitié de saison en gros. Je pense qu'il faut le laisser faire cette moitié de saison et puis voir par la suite. Mais d'entrée de dire que c'est simplement temporaire. Je pense que pour lui, ça ne doit pas être très agréable non plus, parce que ça veut dire que peu importe les résultats, on sait déjà qu'il ne restera pas. Et puis ça montre encore un petit peu d'instabilité au sein du club. Voilà.
C'est vrai que lors de son premier passage, quand même, 3 matchs en Première Ligue, une victoire face à Chelsea, un nul face à Arsenal, un nul face à Manchester United. Et il n'avait pas été gardé au final, c'était plutôt pas mal. Juste tout à l'heure, Sylvain, vous le disiez, votre équipe, il lui manquait pas grand-chose à l'époque quand vous étiez à Everton, mais peut-être, et c'était vos mots, hein, peut-être que ça dépensait pas assez, en tout cas sur certains postes où il manquait un ou deux joueurs. Loïc, on va rappeler une chose, c'est que ces dernières années, c'est plus du tout le même Everton, c'est un Everton qui dépense et énormément même.
Mais c'est ça qui est dingue, c'est depuis l'arrivée donc, de Farhad Moshiri à la tête d'Everton, on va dire à l'orée de la saison 2016-2017. Everton fait tout simplement partie des clubs qui dépensent le plus à l'échelle européenne. Hein. Ils ont dépensé 624 millions d'euros donc, depuis 2016-2017, ce qui les place à la 12e place, le 12e club le plus dépensier en Europe. Si on garde juste la Première Ligue, ça les met en 5e position, donc c'est énorme. Et quand on parlait d'argent dépensé, pas forcément bien dépensé, parce que si on fait la balance entre les dépenses et les revenus, on voit que là, c'est peut-être encore pire. Ils ont un déficit de 270 millions d'euros, ce qui est énorme. Ça les place à la 9e place en termes européens, à la 6e place en termes d'équipe de PL. C'est vrai que c'est assez fou. Et on a retracé, entre guillemets, les derniers listings de mercato d'Everton sur les dernières saisons. Et on voit qu'effectivement, il y a eu des investissements qui sont vraiment bizarres et qui n'ont pas du tout profité au club. On pense notamment à Alexis Iwobi, qui avait été recruté le dernier jour du mercato pour plus de 30 millions d'euros. Yannick Bolasie aussi, 29 millions d'euros. Il y a beaucoup de mecs à 20-25 millions qui n'ont pas du tout donné la pleine mesure de leur talent, du style Jean-Philippe Gébamin, 25 millions, André Gomez, 25, David Klaassen, 27, Schneiderlin, 23. Enfin, ouais. Franchement, c'est des sommes assez incroyables pour des joueurs qui, soit n'ont pas réussi encore à exprimer leur potentiel à Everton, soit sont déjà partis, en fait. Donc, c'est de l'argent un peu jeté par les fenêtres, ouais. Alors que, comme tu le disais, Salim, Everton a de l'argent, à part le dernier mercato estival où effectivement il y a eu des restrictions et Benitez n'a pas pu dépenser. Ils se sont contentés de prendre Demarai Gray et Andrew Stansen, je crois, pour quelques millions d'euros. Mais sinon, voilà, ils étaient un peu limités à ce niveau-là. Mais sinon, ouais, ils ont de l'oseille.
Oui, et Farhad Moshiri, tiens, vous le disiez, le propriétaire d'Everton, qui parle rarement, s'exprime rarement. Et là, il l'a fait ce week-end sur le site du club d'Everton. En quelques mots, je comprends la frustration ressentie par tous ceux qui aiment Everton à cause de notre forme incohérente ces dernières saisons, malgré un investissement important dans l'équipe. L'argent qui a été dépensé depuis 2016, non seulement pour l'équipe, mais aussi pour des projets clés, y compris notre nouveau stade, démontre mon engagement envers Everton. Je vous écris pour vous assurer que mon engagement reste fort et ciblé. Le club a annoncé aujourd'hui la conversion d'un prêt de 100 millions de livres sterling en fonds propres, ce qui démontre clairement mon engagement et renforce considérablement le bilan. Je vous promets que ma détermination ne sera pas abandonnée. Il évoque le stade, il évoque cet argent, Flora. L'argent, donc, il est là, sauf qu'il est mal dépensé.
Oui, et en fait, on l'a vu. Alors, on parlait de United tout à l'heure. Hein, c'est pareil, ils ont dépensé des sommes monstres pour des résultats qui ne sont pas du tout à la hauteur aujourd'hui. Et finalement, c'est ce que disait Sylvain au départ, c'est que eux, il n'y avait pas tous ces recrutements-là à l'époque. Ce n'étaient pas les joueurs les plus talentueux de PL, mais du coup, ils trouvaient satisfaction dans autre chose, en fait. Ils allaient chercher autrement. Là, d'aller chercher des joueurs nouveaux, finalement, toutes les saisons, parce qu'effectivement, chaque entraîneur qui arrive veut jouer d'une certaine manière, donc ils prennent des joueurs qui peuvent être en adéquation avec le système de jeu qu'ils veulent mettre en place. Finalement, ça change tellement vite que c'est impossible de mettre quelque chose en place, justement, et de construire vraiment quelque chose sur le long terme. Tu peux aller chercher tant que tu veux des mecs à 20-25 millions tous les années, si tu veux. Ça ne changera pas ton problème de fond et que la construction, elle doit venir d'ailleurs. Et c'est le même problème pour plein de clubs européens et United en premier. C'est que les sommes dépensées, déjà, des fois, c'est simplement pour combler un petit peu la frustration des supporters qui réclament effectivement un investissement et se dire « Ah bah tiens, on a l'impression que... » Et on se l'est dit, même nous, quand on voyait l'effectif d'Everton, on se disait « Ah ouais, quand même, ça claque, quoi. C'est pas mal, ça peut faire quelque chose. » Et puis ça dure un match, deux matchs, trois matchs, et après, ça s'évapore. Donc, il faut aller chercher ailleurs, clairement.
Ouais, mais on a l'impression que ça va être compliqué, encore une fois, à trouver cette solution, Sylvain.
Oui, ça va être compliqué parce qu'il reste le problème de fond, c'est le même. Ils sont à la recherche d'un entraîneur, donc nouvel entraîneur, nouveau staff, nouvelles habitudes à créer, nouvelle atmosphère au sein du vestiaire, nouveaux choix tactiques, nouveaux joueurs aussi, parce que chaque entraîneur qui vient, va sûrement en arrivant faire un petit état des lieux et se dire tel joueur me correspond pas, je voudrais le remplacer. Et ça a été le problème d'Everton pendant au moins 6 ans. Et ça continuera. Le problème pour le moment est le même. Hein. C'est d'avoir l'argent, c'est bien, mais si tu changes d'entraîneur et que chaque nouvel entraîneur, il faut son nouvel effectif, ça va être le même problème. Donc on sent très bien qu'il y a quelqu'un qui va arriver prochainement ou peut-être à la fin de la saison. Et puis il va y avoir 2, 3 ou 4 joueurs qui vont devoir partir et puis il va falloir les remplacer. Voilà. Donc un joueur par exemple comme Lucas Digne ou qui vient juste de partir d'Everton alors que maintenant un entraîneur qui il jouait tous les matchs sans problème. Je pense que pour moi, avoir vu jouer, il avait un super niveau aussi. Et puis un nouvel entraîneur avec Benitez. Le jeu ou le style ne convient pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il part et une semaine après, Benitez est viré. Donc je te dis, mais je n'arrive pas à comprendre. Ouais, alors qu'il venait juste de re-signer un contrat. Hein. Il y a un an, il venait juste de re-signer une prolongation de contrat.
C'est ça.
Ou si tu sais que tu vas virer l'entraîneur, dis-toi bon ben j'ai un bon joueur qui est là, c'est un bon mec en plus, je le garde. Et puis ben l'entraîneur va partir, donc on verra avec le prochain entraîneur. Non. Donc c'est des choix sur le long terme. Ça n'a pour le moment il y a aucun. On voit pas de long terme. Il y a pas de long terme. Et pour le moment il y a aucun sens. Alors il y a un super stade en prévision. C'est vraiment magnifique pour le club et c'est ce que le club attendait. Et ça c'est top. Mais il y a de l'argent, mais pour le moment, l'argent est plus ou moins gaspillé. Et là, sur les saisons, on parlait de Gray ou de Townsend. Je pense que c'est les deux meilleures signatures et ça leur a coûté vraiment pas grand-chose. Donc, comme quoi, ils ne sont pas non plus obligés de dépenser chaque année. Maintenant, les transferts sont énormes. Pour 20 millions, t'as plus grand-chose. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Et puis surtout, prenez un entraîneur qui va rester et soyez patient. Un entraîneur qui correspond au club aussi. Donc c'est soit il décide de revenir à ce que Everton a toujours été, c'est-à-dire un club difficile à battre, avec des valeurs, ou alors ils veulent complètement changer l'ADN du club et être un club qui joue un petit peu à la Barcelone ou à l'Arsenal, ou comme tout le monde veut jouer en ce moment. Et dans ce cas-là, ben, prends l'entraîneur en conséquence, prends les joueurs en conséquence, mais laissez le temps. On sait très bien que s'il y a des grands changements comme ça, ça prend un peu de temps, ça ne va pas se faire en un mois, ça va peut-être se faire en une saison, deux saisons. Donc soit on laisse le temps au temps, ou soit on revient aux valeurs du club. Mais il faut qu'ils prennent une décision, parce que ça change tout le temps et ça devient de pire en pire. Ils sont, je crois, à 3 ou 4 points du premier relégable.
C'est ce que j'allais dire, en fait, Sylvain. C'est que là, il y a quand même une forme d'urgence quand même pour Everton, peut-être plus cette saison que les autres, parce que cette menace de la relégation, mine de rien, elle est quand même là. Et là, ce serait catastrophique pour le club, quoi.
Ouais, non, mais là, il faut pas se voiler la face. Hein. Ils n'ont pas d'entraîneur ou un entraîneur qui est là provisoirement, un effectif de joueurs qui est léger au niveau qualité sur le papier. Quand on regarde, pourtant, c'est pas trop mal. Mais je pense que l'amalgame ne se fait pas trop. Alors, est-ce que les joueurs commencent à venir à Everton plus pour l'argent que pour le club? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont peut-être signé 3-4 ans, ils savent qu'ils vont jamais retrouver un contrat comme ça, donc ils se disent moi je reste, et puis quand mon contrat il arrive à terme, je partirai parce que je pourrais pas trouver mieux. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a je suis pas au sein du club, j'en ai discuté avec personne, mais j'ai l'impression que l'ambiance au sein du vestiaire n'est pas aussi soudée que ça pouvait l'être, que tout le monde ne tire pas dans le même sens, qu'il y a des gens qui sont là pour des raisons différentes. Après, ils ont été affectés par des blessures au mauvais poste et tout, c'est sûr, mais ça fait partie du foot. Ça va toujours arriver, c'est comme ça, donc c'est des choses qui sont inévitables. Donc non, j'aimerais bien qu'ils se retrouvent un peu plus de stabilité, parce que ça devient... Ils se battent pour ne pas descendre. Hein. Il faut pas jouer la face. Hein.
C'est ça. Avant cette stabilité, en tout cas cette stabilité va passer par le maintien d'abord, puisque c'est ça la recherche à court terme. Qu'Everton puisse se maintenir en Premier League, on le rappelle, les Toffees sont 16e du championnat anglais. Donc la route va être encore longue jusqu'à la fin de cette saison. La fin de ce PL Zone, le podcast épisode 12 consacré à Everton. Grand merci à vous, Sylvain Distin, toujours aussi passionnant de vous écouter.
Merci beaucoup.
Notamment pour évoquer Everton. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous, Flora, Loïc. Grand merci à vous. Merci à Samantha Zweck à la préparation, Julie Doreau à la réalisation derrière la vitre. N'hésitez pas pour vos retours via le hashtag PL Zone sur Twitter. N'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes pour être alerté sur chaque nouveau podcast diffusé, car ce podcast, c'est le vôtre avant tout. Et n'oubliez pas, comme un new Alliance, ciao.